Terre à Terre, le magazine de l'environnement. Ce matin, nous parlons du Forum scientifique et citoyen sur les effets génétiques des rayonnements ionisants qui s'est tenu à Genève à la fin de l'année dernière. Une question. Comment se fait-il qu'on n'entende jamais parler de la santé des populations de Tchernobyl, de Fukushima ? Plusieurs réponses possibles. Peut-être qu'il n'y a rien à en dire, puisqu'il paraît que les doses ingérées étaient très faibles. Trop faibles, donc, pour avoir des conséquences discernables. Ou alors, peut-être qu'il n'y a pas d'études portant sur les effets de la radioactivité sur la santé des populations. Ou encore, peut-être que des études existent, mais qu'on n'en parle pas. L'ONG Independent WHO se désole depuis 8 ans de l'accord qui lie l'Agence internationale de l'énergie atomique à la prestigieuse Organisation mondiale de la santé. L'OMS s'est engagée à ne pas s'occuper des effets du nucléaire sur la santé. Voilà donc une partie de l'explication. Mais il se trouve que le 29 novembre dernier, à Genève, Independent WHO organisait un forum scientifique et citoyen sur les effets génétiques des rayonnements ionisants. Cette petite association avait réussi à dénicher 6 chercheurs en Allemagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Finlande et au Japon. Et on a pu suivre, toute la journée, des communications rigoureuses, étayées et tout à fait éclairantes. Bon, mais l'OMS est libre de passer des accords avec qui elle le souhaite. Et la presse est libre de ne pas venir assister à des rencontres auxquelles elle est conviée. Paul Rouleau, le forum scientifique et citoyen qui s'est tenu à Genève fin novembre dernier sur les effets génétiques des rayonnements ionisants est une initiative du groupe Independent WHO qui, malgré son nom anglais, a été fondée par vous-même, breton d'origine.
Oui, fondée par moi. Enfin, disons que j'en ai été humblement l'initiateur. C'était en 2006, je lisais le livre de Vladimir Tcherkov, Le crime de Tchernobyl. Les affaires du nucléaire, ça fait longtemps que je m'en occupe, mais c'est là que j'ai découvert l'implication de l'OMS. Enfin, j'ai découvert ce que l'OMS fait et ce qu'elle ne fait pas en matière de nucléaire, c'est-à-dire qu'elle n'accomplit pas sa mission de protection des populations en matière de rayonnement ionisant, enfin les conséquences des rayonnements ionisants. Quoi.
L'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé.
Oui, c'est ça, oui. Donc, découvrant ça en lisant le livre de Vladimir Tcherkov, Le crime de Tchernobyl, vraiment, moi, j'ai été révolté. Parce qu'encore, les partisans du nucléaire, enfin, les nucléocrates, ils font leur business. Hein, c'est comme les bandits, ils font leur business. Mais savoir que la médecine institutionnelle s'allie aux nucléocrates comme des policiers, par exemple, s'allieraient à des bandits, non, alors là, ça m'a complètement bouleversé.
Peut-être qu'il faut rappeler en deux mots, Paul Rouleau, pourquoi vous parlez de cette alliance. C'est qu'en fait, il y a eu alliance effectivement entre l'OMS, Organisation mondiale de la santé, et l'AIEA, Agence internationale pour l'énergie atomique.
Oui, enfin, il y a une alliance dans les faits, enfin, il y a une alliance dans la paperasse, parce qu'il y a un accord qui a été conclu en 1959 entre l'AIEA et l'OMS, qui précise notamment qu'aucune recherche de l'OMS ne doit être faite et publiée en l'absence de l'accord de l'AIEA.
Mais enfin, en ce qui concerne les questions nucléaires.
Mais bon, ça, c'est de la paperasse, parce que même sans accord, ça fonctionnerait pareil, je crois. Dans les faits, il y a des choses qui sont manifestes. Par exemple, une des conférences qui a été faite à propos de la catastrophe de Tchernobyl, c'était à Kiev, où tout un tas d'experts se sont exprimés sur les conséquences. Eh bien, les actes de cette conférence n'ont pas été publiés parce que il y a des choses qui ont été dites qui n'arrangeaient pas du tout l'AIEA. Ce fait-là m'a complètement révolté. Et là, j'ai dit, je vais me planter devant l'OMS pour dénoncer ça. Voilà, je suis un impulsif. Hein. Et là, j'en ai parlé à ma compagne, qui tout de suite a été d'accord aussi. Et là, on a téléphoné aussitôt, on a cherché le contact de Vladimir Tcherkov et je l'ai appelé. Et d'emblée, il m'a dit « Ouais, ça me plaît ton truc, là ». Et à partir de ça, c'est parce que ça m'encourageait bien quand même que Vladimir, que je ne connaissais pas à ce moment-là, parte sur cette idée. Moi, j'avais des relations dans les réseaux antinucléaires parce qu'on s'est beaucoup battu, nous, contre la centrale nucléaire qui devait se faire sur la Bossoire, là, au Carnet. Et donc là, j'ai contacté des gens et en peu de temps, on s'est retrouvé une quarantaine de personnes qui ont pris l'engagement, ben, on y va et on tient devant la porte de l'OMS. Voilà. On tient autant de temps qu'il faudra. C'était un pari un peu fou.
Oui, vous êtes un impulsif, Paul Rouleau, mais vous êtes aussi un tenace parce que ça fait 7 ans maintenant qu'il y a chaque jour ouvrable une personne, deux personnes, 3, 10 personnes devant le siège de l'OMS à Genève toute la journée, oui. De 8h à 18h.
C'est ça, exactement, oui. C'est le plus souvent 1 à 2 personnes. 10 personnes, c'est dans les cas vraiment extraordinaires parce qu'on n'est autorisé qu'à 3 personnes par la police de Genève. Mais enfin, de toute façon, on ne pourrait pas assurer 10 personnes tout le temps. C'est très bien, hein, l'autorisation qu'on a, quoi. Oui, oui, ça fait 7 ans, même ça va faire 8 ans le 26 avril 2015 qu'on est là. Tous les jours ouvrables. On espère que ça va continuer, puisqu'on ne se fait pas d'illusions. Le comportement de l'OMS ne va pas changer comme ça du jour au lendemain. Est-ce qu'on arrivera à le faire changer? On n'en sait rien du tout. Au moins, on trouve qu'il est important de dénoncer le comportement de la médecine institutionnelle au niveau mondial, onusienne, quoi. Voilà, c'est vraiment David contre Goliath. Mais ça fait du bien de dénoncer ça. Ça fait du bien. Déjà ça, quoi.
Ça fait du bien de se retrouver avec d'autres pour faire cette vigie.
Oui, absolument. Ça fait du bien de se retrouver avec d'autres. Ça fait du bien aussi, comme au cours de ce forum de novembre, de rencontrer des gens qui travaillent sur ces sujets-là à un autre plan, au plan scientifique. Nous, ça nous donne de la force, quoi. Et j'espère qu'eux, de leur côté, nous sachant devant la porte de l'OMS, ça les motive à aller le plus vite possible dans leurs recherches pour qu'enfin, ça devienne tout à fait évident que eh bien, les conséquences sanitaires du nucléaire ne sont pas banales comme semblent le dire les institutions internationales telles que la CIPR ou la IOA, etc., quoi.
Mais alors justement, ces forums, il y en a eu 2. Le premier en 2012, c'était sur la radioprotection après Tchernobyl et Fukushima. Et puis celui-ci sur les effets génétiques des rayonnements ionisants. C'est encore une autre forme d'action que vous avez initiée à Independent Who.
Oui, donc en 2012, ça fait 5 ans qu'on était déjà devant l'OMS. On avait l'année d'avant rencontré la direction de l'OMS. Enfin, je vais vous donner un petit peu le détail de cette affaire-là. La direction de l'OMS, on n'avait pas réussi à les rencontrer jusque-là. Et puis quand Fukushima a explosé, ben là, on a eu quelqu'un de l'OMS qui est descendu voir les vigies en bas, qui affichait que le crime. Mais ils ont daigné venir nous voir et nous dire qu'ils voulaient nous rencontrer. Bon, ben là, on a tout de suite dit, ben OK, on vous rencontre, quoi. Mais ça a été une réunion de communication de la part de l'OMS. La direction voulait sans doute montrer à ses employés qu'ils n'étaient pas complètement fermés, étant donné que Fukushima remettait beaucoup de choses en question pour eux. D'ailleurs, un détail de plus, dans les quelques heures qui ont suivi notre rencontre, eh bien, les photographies, parce qu'on a été photographiés, on était 5 du collectif, les photos étaient affichées dans le hall en bas. C'était de la com', quoi. Madame Chan, la directrice, nous a dit qu'elle était touchée par notre action et tout ça, quoi. Bon. Et à moi-même, elle m'a dit, dans le creux de l'oreille, quand je lui ai dit au revoir, et elle m'a dit comme ça, « Vous savez, on peut faire beaucoup plus quand on n'est pas payé pour le faire. » C'est une phrase qui reste à mon esprit, quand même. Je ne sais pas comment trop la traduire. Après cette rencontre, moi, je me suis dit... Il y a quelque chose qui manque dans notre action. Il ne faut pas qu'on s'en tienne à cette seule action de vigie, enfin qui n'était pas la seule quand même, parce qu'on essayait de contacter les missions des pays membres de l'OMS pour essayer qu'un de ces pays mette notre sujet à l'ordre du jour de l'Assemblée mondiale de la santé, qui a lieu tous les ans à l'OMS. Bon, il y a ça qu'on fait aussi, hein. Mais là, je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose de plus. Il faut qu'on se rapproche des scientifiques qui travaillent sur la question. Et j'ai proposé à l'équipe qu'on essaye d'organiser un forum qui serait aussi un lien entre les citoyens et les scientifiques, quoi. Donc, et c'est comme ça qu'on en est arrivé à organiser ce premier forum en 2012, quoi, sur la radioprotection.
Alors, ce qui est très impressionnant, c'est que tout de suite, c'est un forum très international. Vous avez contacté des scientifiques du monde entier.
Oui. Oui, le premier forum en 2012, là, les contacts, on les avait surtout en Russie. Qu'est-ce qu'il y avait à ce premier forum? Oui, ben, il y avait Yablokov. Yablokov qui venait de sortir son livre, enfin publié par l'Académie des sciences de New York, sur les conséquences de Tchernobyl. Et puis il y avait aussi Paul Lannoy, et puis il y avait aussi les Japonais, évidemment.
Paul Lannoy, qui est un ancien eurodéputé belge.
Belge, oui. Et puis qui a travaillé au Comité européen sur les risques des radiations. Et puis aussi, on avait réussi à rentrer en contact avec des Japonais là-bas de Fukushima.
Et puis il y avait aussi Galina Banajevskaya, oui, pour Tchernobyl.
Et Yuri Bandajevski aussi. Voilà. Ainsi que le fils de Vassili Nesterenko, Alexei Nesterenko.
À ce deuxième forum de fin novembre, on avait de nouveau des Russes, des Américains, des Polonais, une Japonaise. Un panel, là encore, très international. Ce qui m'a frappé, c'est lorsque le docteur Vertaletsky, qui travaille en Ukraine, a lancé un appel à l'ensemble des personnes présentes pour dire « Nous avons besoin les uns des autres, nous avons besoin, qu'est-ce que nous pouvons faire les uns pour les autres ?»
Oui, c'est vrai, puis c'est une question que je me pose aussi, moi, en tant que, dans ce que je peux faire pour cette affaire-là. Et ce que je peux faire, moi, c'est d'aller me planter devant l'OMS. Et peut-être ce que je peux faire, c'est d'avoir de temps en temps une idée qui fait avancer... Parce que bon ben la lutte, je vous apprends rien du tout. C'est aussi un peu de la mise en scène puisque il faut arriver sur le terrain médiatique, il faut intéresser les journalistes. Enfin, vous êtes une de ces journalistes-là. On vous remercie de nous s'intéresser à nous.
Oui, mais c'est pas seulement ça, Paul Rouleau. C'est ce que je voulais souligner là, oui. C'est le fait que vous créez en fait une enceinte dans laquelle des scientifiques qui ne se connaissent pas peuvent se croiser, se rencontrer et mieux discuter entre eux de leurs travaux.
Oui, oui, il y a cette facette-là, oui. Enfin, même je la découvre en côtoyant les scientifiques, en voyant un peu comment ils cohabitent, eux, ensemble. Mais avant ces forums, n'ayant aucun contact avec les scientifiques, je n'aurais pas imaginé cette affaire-là, quoi. C'est évident que dans le forum de novembre, on a découvert que tout le monde n'a pas la même approche. Et que peut-être chacun travaille un petit peu dans son coin. Bah, ça peut aussi être mis en parallèle avec moi quand j'ai fait mon métier. On a des fois le tort de ne pas aller vers les autres pour trouver une solution au problème qu'on cherche. Et puis c'est peut-être le cas pour eux aussi. Et peut-être davantage parce que ça les engage un peu plus dans leur ego que moi, ça m'engageait du temps où je sarclais les carottes. Quand eux, ils ont à publier quelque chose sur une découverte.
Et justement, à propos de publication, les actes du premier forum ont été publiés. Ceux du second forum seront publiés dans les semaines qui viennent. Et vous demandez systématiquement aux scientifiques qui viennent d'utiliser un langage le plus simple et compréhensible possible.
Oui, absolument. Puis ce dernier forum de novembre, qui était sur la génétique, donc plus pointu scientifiquement, c'était, l'exercice était encore plus difficile à réaliser. Pour moi, par exemple, il m'a manqué... Enfin, et puis il y avait beaucoup de choses en anglais, notamment sur ce qu'on voyait sur l'écran. Et par exemple, le mot « phénotype », qui est important de savoir à quoi ça correspond, eh ben, c'est le lendemain du forum que j'ai dû me faire expliquer. Donc moi, je vais avoir besoin de relire tous les actes, tout ce qui s'est dit, quoi. Et c'est pour ça que ça va être très important, oui, que ce soit disponible sur Internet pour qu'on puisse lire et revoir tout ça à tête reposée, quoi.
En attendant, la vigie continue, tous les jours à Genève, tous les vendredis à Paris, devant le ministère de la Santé.
Mmh. Oui, la vigie continue jusqu'à la prochaine étape, qui est l'Assemblée générale qui va se tenir au mois de mars prochain à Paris, oui, où on va se reposer la question, est-ce qu'on continue ou pas, quoi. Et donc, à chaque fois qu'on se pose cette question, on se dit, quelle est l'efficacité de notre action? À quoi ça sert? Et c'est quand je suis, moi, avec ma pancarte autour du cou devant l'OMS, c'est quelque chose qui est là, présent à mon esprit. Bon, est-ce que ça sert à quelque chose encore que je sois là, quoi, 8 ans après? Est-ce qu'on va arriver à faire bouger les affaires, quoi, hein? Et puis, ben, j'ai pas trop de mots pour en réponse à ça. Mais c'est une sensation, oui, il faut continuer, quoi. Et d'autant qu'il y a quelque chose d'autre qui va peut-être se mettre en place, c'est que les victimes, notamment de Fukushima, qui ont besoin de se faire entendre de l'OMS, entre autres, parce qu'ils ne peuvent rien attendre de bon de leur gouvernement. Ils devraient attendre au moins quelque chose de bon de l'Organisation mondiale de la santé. Eh bien, il y a des victimes qui ont l'intention de nous écrire des textes sur ce qu'ils vivent et que nous, les vigies de l'OMS, on soit les facteurs et qu'on porte leurs lettres à l'OMS. Donc ça va être une dimension nouvelle de la vigie, si elle se met en place, que nous soyons les messagers des victimes et les messagers bien physiquement en portant leur courrier à l'OMS, quoi.
Tim Mousseau, il y a quelques années, pas très longtemps, sur la chaîne franco-allemande Arte, on a vu un documentaire sur Tchernobyl qui était tout à fait étonnant. On nous parlait de la végétation qui était devenue exubérante et des animaux qui se promenaient partout en liberté. C'était une sorte de paradis sur Terre, avec tout de même quelques interrogations qui se posaient. On remarquait que les feuilles de certains arbres avaient changé, avaient peut-être un peu muté, elles s'étaient transformées. Et puis les animaux aussi avaient l'air peut-être un peu différents. Et en même temps, il y avait une sorte d'émerveillement autour de ce qui était en train de se passer dans cette région aujourd'hui abandonnée et donc où, d'une certaine manière, la nature reprenait ses droits. Vous qui êtes biologiste, qui travaillait sur ces questions-là, qui avait parcouru la région un certain nombre de fois. Comment est-ce que vous auriez réagi si vous aviez vu ce documentaire ?
C'est une question très intéressante. Le fait est qu'on a pas mal travaillé avec les réalisateurs du film. D'ailleurs, ils nous ont invités à venir sur les lieux. Nous avons participé à 4 reprises au tournage pendant les 4 saisons de l'année, donc, et ils nous avaient promis que ce serait un véritable documentaire qui vraiment allait montrer les choses telles qu'elles étaient à Tchernobyl. Hélas, malheureusement, ils ont décidé de se concentrer sur ce qui était beau au plan cinématographique. Ils ont voulu vraiment insister sur les différences de point de vue sur place, et ils ont plutôt en fait dressé les scientifiques les uns contre les autres, voire contre le reste de la population. Et d'ailleurs, dans le film, ils ont été jusqu'à montrer des photos d'animaux qui en fait n'avaient pas été filmées à Tchernobyl même. Et pourtant, à voir ces images, on avait le sentiment que ça se passait à Tchernobyl, des loups, des ours en particulier. Pour tout vous dire, on a été très choqués par ce film. En fait, ce qu'on a constaté à Tchernobyl au fil du temps, c'est qu'il y a certaines parties de la zone qui ont l'air tout à fait normales et tout à fait naturelles. Et ce sont a priori les zones dites propres, où il n'y a pas de radiation. Malheureusement, en raison de la répartition des retombées, il y a certaines zones qui sont moins radioactives que le centre de Paris, hein, d'un point de vue des radiations. Pour des raisons géologiques, il y a eu peu de retombées. Après, il y a d'autres zones qui sont très fortement contaminées. Et donc, il y a 10 années à peu près, Anders Moller, avec qui je travaille, et qui travaille au CNRS, il a commencé à faire des études dans la région. Il voulait vraiment se pencher sur cette question, à savoir, y avait-il davantage d'animaux qui étaient touchés par les radiations ? Et les gens se seraient dit, si les animaux ne sont pas touchés, ça veut dire qu'il y a eu peu d'effets des radiations. Donc on a commencé à vérifier ces idées de manière assez rigoureuse et scientifique. La seule manière de procéder, c'est de passer beaucoup de temps sur place et compter les animaux, faire un décompte de manière très scientifique et très rigoureuse, et ensuite faire une analyse en tenant compte de toutes les autres variables qui sont importantes pour savoir si un animal est présent ou un végétal est présent à tel ou tel endroit. Il faut tenir compte des autres variables. Est-ce qu'il y a de l'eau à proximité ? Quel est l'état des sols, du sous-sol ? Ça, c'est important pour savoir si tel ou tel organisme se sent à l'aise à tel ou tel endroit. Et donc, on a commencé à faire ces études à Tchernobyl au milieu des années 2000. On a fait 3-4 années de recherche et d'études sur place, pas simplement en Ukraine, mais aussi en Bélarus. On avait d'ailleurs un site indépendant sur place. Et d'ailleurs, c'est une zone qui a été très touchée, rappelons-le au passage, par la radioactivité. En tout cas, on a fait ce décompte des animaux et on a fait des analyses tout à fait rigoureuses et les choses sont apparues très clairement, à savoir que dans les zones très fortement touchées, il y avait moins d'oiseaux et moins notamment d'espèces d'oiseaux, tandis que dans les zones qui n'avaient pas été touchées, les choses étaient à peu près normales, nombre d'animaux normal, nombre d'espèces normales également. Alors, ensuite, par extrapolation, on a travaillé aussi sur les insectes, sur les amphibiens, sur toutes les espèces qui pouvaient être touchées. Et on a retrouvé le même schéma à chaque fois, c'est-à-dire zone fortement contaminée, absence ou forte diminution de la présence de ces différentes espèces animales.
Ensuite, il y a la végétation aussi.
Là, on a fait une analyse plus limitée de la végétation. Mais ce que l'on a constaté, c'est qu'il y a des effets sur les pins, des effets catastrophiques. On le savait déjà, mais nous avons documenté encore davantage le fait que le pin sylvestre est très sensible à la radioactivité. Il disparaît, en fait, dans toutes les zones où on a des doses supérieures à 30 microsieverts par heure. Ils disparaissent et ne reviennent pas. Et on a vu également que leur taux de croissance est affecté. Ils grandissent moins. Il y a aussi des anomalies, des difformités que l'on ne voit pas dans d'autres zones. Après, il y a d'autres changements qui sont un petit peu plus subtils dans la végétation que nous avons constaté. On en a parlé d'ailleurs, en partie parce qu'il y a moins de pollinisateurs sur place, moins d'abeilles, moins de papillons présents pour la pollinisation. Et donc, il y a beaucoup d'espèces qui dépendent de ces pollinisateurs et qui ne se développent plus aussi bien que ce n'était le cas dans ces zones à forte contamination.
Une des découvertes que vous nous avez racontées aujourd'hui était particulièrement frappante, j'ai trouvé. C'est lorsque vous êtes arrivé dans cette zone où on coupait du bois et vous avez vu des troncs alignés. Et ces troncs avaient une particularité assez curieuse sur la tranche. On pouvait voir que le cœur du tronc était d'une couleur totalement différente et que il y avait une sorte d'anneau tout autour qui était beaucoup plus foncé.
C'est exact. Et là, c'était assez symbolique pour nous. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce changement, on a découvert, je vous le disais, ces souches de bois et on voyait que ce changement est intervenu au moment de la catastrophe de Tchernobyl. Et on a vu que tous ces arbres avaient été touchés exactement de la même manière avec ce changement de couleur et de la qualité du bois. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a amené à étudier de plus près les impacts sur la forêt. Donc on a étudié trois cœurs d'arbres de trois différentes espèces et on constate que le taux de croissance de ces arbres a fortement reculé dans les zones qui étaient affectées, beaucoup plus que dans les zones non contaminées. Et si on tient compte également d'autres phénomènes comme la sécheresse, ils se combinent pour affecter en fait la croissance. Et puis il y a quelques années, nous avons également découvert que l'activité bactérienne et également la présence des champignons dans les sols et à la surface sont considérablement affectés par les radiations. On voit par exemple que la litière forestière s'accumule beaucoup plus dans ces zones, mais on constate aussi que la décomposition et le cycle des nutriments est affecté. Et ça pourrait bien sûr affecter à terme également la croissance des arbres. C'est aussi très préoccupant du point de vue des risques que peuvent représenter les incendies de forêt. On s'inquiète de plus en plus, on se dit, mais s'il devait y avoir un incendie dans cette forêt, un vaste incendie, toute cette activité radioactive qui est actuellement présente dans les arbres se disperserait éventuellement jusqu'à Kiev. On a quand même une ville de 4 millions d'habitants et d'autres zones habitées, donc ça pourrait évidemment représenter un risque considérable.
Mais vous racontiez, Tim Mousseau, que ces fameux troncs qu'on évoquait, vous avez essayé de les gratter, vous avez donné des coups de pied pour voir s'ils allaient se décomposer parce qu'ils étaient là depuis longtemps et en fait, ils étaient comme figés, conservés, stérilisés, fossilisés par la radioactivité.
Vous savez, comme beaucoup de choses dans le domaine scientifique, tout part souvent d'une observation tout à fait fortuite. Il se trouve qu'un jour, on marchait dans cette forêt, il y avait tous ces troncs là, qui étaient allongés sur le sol, alignés, et il a bien fallu les enjamber, il fallait marcher au-dessus de ces troncs, et à ce moment-là, on s'est rendu compte que 15-20 ans après tous ces événements, ces arbres étaient quasiment intacts. Si c'était en Caroline du Sud, là où j'habite, ces arbres, ça serait de la sciure en 15 ans. Il n'en resterait pas grand-chose, il suffirait de donner un petit coup de pied dedans et tout s'effondrerait et partirait en poussière, ce qui n'était absolument pas, et alors de très loin, le cas à Tchernobyl. Et comme on l'a appris par la suite, c'est probablement parce que l'activité bactérienne et l'activité des champignons également est affectée par les radiations, sans oublier aussi le fait que les insectes, dans une large mesure, sont impactés aussi par l'effet des radiations. Et ce qui est assez intéressant quand même, c'est qu'il y en a qui ne sont pas affectés, certains des insectes. Et ça nous a amené aux travaux que l'on fait actuellement, à savoir la variabilité des différentes espèces, leur sensibilité respective à la radioactivité. Il y a certaines espèces qui ne sont pas du tout affectées par des variations, alors qu'il y a d'autres espèces sur place à Tchernobyl qui ont été très touchées et qui vont disparaître avec des niveaux de radiation assez faibles. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre les effets des radiations, comment elles influencent les sujets des organismes comme le nôtre, et comprendre cette variabilité individuelle, comprendre son mécanisme, va nous permettre de mieux comprendre comment, effectivement, on pourrait faire face aux effets des radiations dans d'autres endroits également.
Jusqu'à présent, nous avons surtout parlé de la disparition du nombre qui décroît, d'oiseaux par exemple ou d'insectes, mais aussi de différentes espèces, le nombre décroît. Mais il y a également effectivement toutes ces anomalies, toutes ces transformations. Et quand vous parlez de variabilité, je repense à cette photo que vous nous avez montrée de carapaces d'insectes qui se sont métamorphosées de 1000 manières différentes.
There's really no ignoring.
Effectivement, on ne peut pas se permettre d'ignorer les conséquences de ces radiations. Certaines sont tellement évidentes. Vous prenez cet insecte qu'on appelle le gendarme, par exemple. C'est un exemple patent. Là, encore une fois, on était en train de déambuler à Pripyat un jour avec mon collègue Andrei Passmoller. Et tout à coup, il se penche, il voit ce fameux gendarme là, et il me dit « Regarde, c'est un mutant !» Et il avait raison, il avait un œil de moins que l'espèce habituelle, ce gendarme-là. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à collecter tous les sujets qu'on pouvait trouver, on essayait de compter les écarts, les déviations par rapport à l'espèce normale, essayer d'y trouver une sorte de schéma, de pattern, et on a pu mettre cela en relation avec le niveau de radiation. Et on s'est rendu compte que quand on était dans des zones fortement contaminées, jusqu'à la moitié étaient des mutants, alors que dans d'autres zones de Kiev, par exemple en ville ou dans des zones qui n'avaient pas été contaminées, ces insectes étaient quasiment normaux. En fait, chaque système qu'on prend le temps d'étudier, eh bien, à chaque fois, on constate qu'il y a des preuves des conséquences de ces radiations. C'est absolument inévitable, ça saute aux yeux, il suffit de regarder.
Certaines sont juste étonnantes, d'autres sont inquiétantes. Vous avez poussé la curiosité jusqu'à mesurer le crâne des oiseaux.
Oui, il y avait certaines observations que nous avions faites sur les enfants, des enfants donc qui vivent en Bélarus, en Ukraine, mais aussi en Scandinavie. Des études ont suggéré que certains enfants qui étaient en gestation, donc in utero au moment des événements de Tchernobyl, ne s'en sortaient pas aussi bien que les autres au plan scolaire. Donc on s'est dit qu'il y avait peut-être des problèmes de développement neurologique liés à l'exposition de ces enfants in utero. Donc on a commencé à mesurer la taille des cerveaux des oiseaux en l'occurrence. On en a mesuré plusieurs milliers et on s'est rendu compte que dans les zones les plus contaminées, effectivement, il y avait une baisse de la taille crânienne de l'ordre de 5% par rapport à la normale. C'est une étude que l'on a faite sur plusieurs années et cela nous a permis de montrer que les sujets, les oiseaux qui avaient un plus petit cerveau avaient moins de chances de survivre, ce qui montre probablement que c'est un avantage d'avoir un gros cerveau plutôt qu'un petit, mais en tout cas de manière plus sérieuse. Ce qu'on a également fait, c'est qu'on a étendu cette étude à d'autres animaux, par exemple les souris, et on s'est rendu compte dans cette zone de Tchernobyl qu'il y avait des effets neurologiques évidents et indéniable sur ces espèces. Mais on en saura plus long, certainement, dans quelques temps.
Vous poursuivez donc aujourd'hui vos recherches à Fukushima ?
Oui, nous sommes très actifs à Fukushima. Et je crois d'ailleurs que nous sommes le seul groupe à travailler à la fois à Fukushima et à Tchernobyl. Ce n'est pas si facile d'ailleurs à faire concrètement, mais enfin, on fait de notre mieux. Et donc, nous étudions les oiseaux, nous les comptons. Nous avons 4 ans de données pour Fukushima, donc pour la population d'oiseaux. Et nous venons d'ailleurs de faire une communication au Congrès ornithologique mondial qui s'est tenu à Tokyo cet été. Il y a beaucoup moins d'espèces d'oiseaux dans les zones de contamination, aussi bien à Tchernobyl qu'à Fukushima. Et il est évident que la contamination est le principal élément indicateur de prédiction donc de la présence d'espèces animales dans les zones contaminées.
Justement, il y avait une de vos collègues ici, Chio Nohara, qui travaille à l'université de Ryukyu à Okinawa et qui nous a parlé d'un travail sur les papillons, donc proche de ce que vous faites.
Wonderful work.
Un travail vraiment magnifique, une étude très intéressante. Ça recoupe complètement le travail que l'on a fait à Fukushima et à Tchernobyl. Nous avons constaté que les papillons, nous aussi on l'a vu, que les papillons sont très sensibles aux radiations. Et donc, ce groupe a été un petit peu plus loin dans ce travail. Ils ont documenté le fait qu'il y a des effets sur les papillons dans la nature, certes, mais en plus, ils ont pu prendre des spécimens de papillons qui ont été mis en laboratoire. On a fait donc des études avec des doses internes et externes de radiation qui leur étaient inoculées. Et cette étude a permis de recréer les effets qui sont constatés dans la nature, cette fois-ci en condition de la laboratoire, et cela montre très nettement que ce que l'on a constaté dans la nature à Fukushima est, de toute évidence, le résultat des radiations qui malheureusement ont été émises dans cette zone. Donc je soutiens pleinement ce travail qui a été fait.
Et également la confirmation que ces mutations génétiques se transmettent de génération en génération.
Ce qu'ils ont montré sans aucun doute, c'est qu'il y a des effets génétiques qui sont transmis d'une génération à la suivante. Et ils ont aussi fait des découvertes plus subtiles, mais peut-être plus importantes. C'est à savoir que certains de ces dommages génétiques, parfois, se perdent d'une génération à l'autre. Ça, c'est des choses que l'on sait sur le plan théorique, qu'au niveau de l'évolution, à savoir qu'il y a un équilibre entre la sélection naturelle et la mutation, et que cet équilibre peut être bouleversé selon les conditions environnementales. Ils ont donc montré que lorsque les taux de mutation augmentent, il y a un effet sur la descendance, mais à ce moment-là, la sélection naturelle vient là pour les supprimer de la population naturelle, et on a à ce moment-là un nouvel équilibre entre la sélection naturelle et la mutation en fonction de l'environnement mutagène qui est présent dans tel ou tel endroit. Donc c'est une étude très intéressante, magnifique, qui donne des informations sur la radiation à Fukushima, mais aussi sur des processus de l'évolution extrêmement intéressants et fondamentaux, des études qu'on n'a pas pu faire précédemment. Donc j'applaudis leur travail, je salue leur courage également, car ce n'est pas facile de faire ce type d'études au Japon à l'heure actuelle. Et vraiment, ça nous a permis de progresser considérablement dans la compréhension de la manière dont ces systèmes sont affectés par les radiations.
Vladimir Vertelecki, vous êtes président du Conseil des programmes de développement de l'enfant d'OmniNet, une association qui s'est créée en Ukraine et qui s'intéresse à la question de génétique médicale et des malformations congénitales dans la région de Polésie. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette région de Polésie ?
Polésie représente
La Polésie, c'est une zone humide, une plaine inondable, à vrai dire, autour du fleuve qui s'appelle le Pripyat. Le Pripyat, c'est plutôt un nom de ville, Pripyat, aujourd'hui. Cette ville qui est devenue une ville fantôme après l'explosion de Tchernobyl. Mais au départ, Pripyat, c'est un nom beaucoup plus ancien que cela, c'est un fleuve. De raison pour laquelle, d'ailleurs, on appelle cette zone de Polésie également les marais du Pripyat. C'est une zone infranchissable, c'est la zone marécageuse de la plus importante d'Europe, de sorte que personne n'a pu conquérir la Polésie. Hitler, Napoléon ont dû éviter cette zone marécageuse qui était infranchissable. Elle est faite de marais, il n'y a pas de route. Et la population autochtone, pour cette raison, est très ancienne. C'est une population qui a survécu à sa manière, avec son propre modus vivendi. Et c'est un mode de vie tout à fait unique. C'est des gens, par exemple, qui savent encore grimper aux arbres, qui savent vivre de manière tout à fait indépendante, sans dépendre de sources extérieures d'approvisionnement. Or, ce que je vous disais à propos de cette région de la Polésie, c'est que nous sommes en présence de sols humides qui ont été créés par des glaciers. Et lorsque les glaciers se sont retirés, ils ont retiré tous les micronutriments de ces sols. Pour cette raison, ces sols sont tout à fait différents d'autres sols. Et pour cette raison, la manière dont les radiations vont se combiner à l'existant ou à se diffuser dans la région est différente de ce que l'on peut constater ailleurs. Et au plan même politique, la Polésie se définit par le caractère des sols. C'est une zone qui s'étend depuis l'Ukraine jusqu'à la Russie. Elle démarre dans ces 5 provinces du nord de l'Ukraine et elle concerne plusieurs régions. Nous nous sommes intéressés exclusivement à la zone de Rivne.
Pourquoi ?
Parce que nos ressources sont limitées. Mais la Polésie, elle s'étend aussi à l'est et à l'ouest de cette zone. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'en Polésie, la zone est parfaitement définie, la population autochtone est définie également. Et puis, il se trouve aussi que cette zone a été polluée par Tchernobyl. Il y a donc la présence de 3 facteurs qui coïncident dans cette zone. Et ce que je dirais, c'est que les retombées de Tchernobyl ont eu un impact sur les 7 comtés du nord de Rivne. Et il se trouve que ce sont justement ces sols humides de Rivne.
Quel type de recherche est-ce que vous avez conduit dans cette région ?
L'étude que nous avons menée a supposé 3 à 4 ans de préparation, ça avant même que nous ayons visité l'Ukraine, par conséquent. Le projet a été présenté au ministère de la Santé. Nous avons signé des accords. Et nous avions une exigence qui était vraiment incontournable, à savoir qu'il nous fallait un registre complet, exhaustif des naissances. Or, il se trouve qu'à Rivne, dans la province donc de Rivne, toutes les naissances sont enregistrées. La moitié de ces enfants naissent au sud de la Polésie, là où les sols sont normaux. Ce sont donc des enfants qui ne sont pas considérés officiellement comme contaminés. Et l'autre moitié de ces naissances se fait en Polésie, zone qui officiellement n'a pas été considérée comme contaminée jusqu'à l'indépendance de l'Ukraine. Il faut donc savoir que sciemment, les experts et soviétiques et internationaux n'ont pas inclus la zone de la Polésie autour de Rivne dans la zone contaminée qui a pu bénéficier de nombreux programmes d'assistance. On se souvient que les événements de Tchernobyl se sont passés en 1986. L'indépendance de l'Ukraine, c'était en 1991. Il y a donc eu 5 années pendant lesquelles aucune donnée n'a été collectée en Polésie.
Donc, si on en vient maintenant au travail que vous avez mené et que vous menez encore. Il s'agit d'un travail très exhaustif puisque vous vous êtes intéressé, vous le disiez, à chacun des nouveau-nés de Polésie.
Pendant la phase de préparation de l'étude, on s'est rendu compte qu'il y avait bien évidemment un problème de crédibilité. Des papiers nombreux qui avaient été écrits après Tchernobyl rendaient compte de résultats, de constatations pour le moins préoccupantes, mais la qualité des rapports, l'évaluation de ces rapports par les experts avait créé, disons, une ambiance ou une atmosphère d'incrédulité. On disait, par exemple, que oui, bon, mais bon, on n'est pas sûr. Est-ce que ces résultats sont vraiment fiables ou pas ? Le doute était présent. Donc, il a fallu créer un système qui vraiment pourrait résister à des contrôles et tenir la barre. Et là, cela supposait d'importer des méthodes internationales qui n'étaient pas disponibles en Union soviétique. Le certificat de naissance, qui est une chose absolument commune en Occident, eh bien, c'était autre chose. Il y avait un autre régime en Union soviétique, à savoir qu'il n'y avait pas en Union soviétique de registre des naissances en tant que tel. On arrivait avec son nouveau-né, on se présentait devant un représentant de l'autorité civile et on le déclarait. Mais au plan médical, il n'y avait pas de manière de répertorier, de manière systématique de répertorier les nouveau-nés. Il a donc fallu mettre en place un système qu'on a appelé le document médical de naissance, qui rendait compte donc de l'état médical des enfants. Et pour créer ce document, il fallait la collaboration des pouvoirs publics du ministère de la Santé, lequel a dit que toute personne travaillant en néonatologie devait remplir ce document attestant de la naissance. On a donc eu besoin du soutien des pouvoirs publics, sinon on ne pouvait pas mettre en place ce registre des naissances. Et une fois que l'on a enregistré tous ces enfants, on a constaté qu'il y avait pour certains de ces enfants manifestement un problème. Ces enfants-là, à ce moment-là, étaient répertoriés dans le registre des anomalies congénitales qui répond complètement au format du registre européen qui s'appelle Eurocat. C'est un registre européen qui permet de s'assurer qu'on applique les mêmes standards, les mêmes normes et qui permet de comparer vraiment les anomalies congénitales. Et en appliquant ces normes, nous, on savait qu'on pourrait comparer nos données avec ce qui était suivi par les quelques 38 systèmes de suivi qui existent en Europe. Donc, nous avons maintenant à peu près 10 ans de collecte de données. Il apparaît qu'il y a des anomalies congénitales qui sont plus fréquentes en Polésie par rapport à la zone non-Polésie de la même province. Ensuite, ce ne sont pas n'importe quelles anomalies. C'est un groupe constant et cohérent d'anomalies. On a par exemple le spina bifida, qui est bien connu, mais il y a également des siamois qui sont présents, les teratomes, les tumeurs donc, du coccyx de l'enfant, et également des phénomènes de microcéphalie. Et toutes ces malformations congénitales qu'on appelle des blastopathies, parce qu'elles se produisent avant l'implantation de l'ovule fécondé, et avant donc que l'œuf devienne un embryon. Donc, d'un côté, nous avons davantage de malformations congénitales, ça ne fait aucun doute dans la zone de Polésie. Ensuite, deuxième partie de cette recherche que nous avons menée, c'est le côté radiation. Et là, nous avons mesuré les radiations incorporées dans le corps des femmes, dans l'organisme féminin. Et là, on a constaté que ce taux était 5 fois plus élevé chez des femmes qui vivaient en Polésie par rapport à des sujets témoins qui ne vivaient pas en Polésie.
Parce que vous avez fait une étude, une recherche également sur une population qui n'est pas contaminée.
Yes, because this is comparing Polesia
oui,
as a contaminated
puisque nous comparons la Polésie en tant que zone contaminée avec le reste du secteur de Rivne qui n'est pas considéré comme impacté et nos mesures de radiation que nous avons faites le confirment. La question est de savoir si ces phénomènes pourraient être liés aux variations, j'entends ces phénomènes de malformations congénitales. Alors, il y a une autre possibilité, c'est les effets de l'alcool, car on sait que l'alcool cause des malformations Mais il se trouve qu'une étude vraiment exhaustive sur des milliers de femmes montre que l'ingestion d'alcool ne peut pas être considérée comme un facteur qui expliquerait ces anomalies. Après, il y a d'autres causes possibles auxquelles je ne pense pas, mais qui pour autant peuvent exister. Alors, si on voit quelles peuvent être ces autres causes possibles, bien sûr, on fera des études. Mais à ce stade, hormis les radiations, j'avoue qu'on est un petit peu à court d'imagination quant aux causes éventuelles de ces anomalies. Alors, il y en a qui ont dit que c'est peut-être un manque d'acide folique. Bon, on n'y croit pas beaucoup, mais nous allons faire les recherches, pourquoi pas.
Est-ce que cette augmentation des malformations congénitales s'inscrit dans le temps, précisément dans la période qui a suivi l'explosion de Tchernobyl, ou bien est-ce que les malformations continuent à se produire aujourd'hui et dans quelle mesure ?
Ce qui est assez préoccupant, enfin, il y a deux choses qui sont très préoccupantes. Tout d'abord, je vous l'ai dit, Rivne n'était pas inclus dans l'étude. Dans les estimations des experts, aussi bien soviétiques qu'internationaux, on n'a pas considéré, je vous le disais, que Rivne était impacté par Tchernobyl. Pour cette raison, on n'a pas de données sur les années 86 jusqu'à l'an 2000 où nous avons commencé, nous, à travailler. Depuis 2000, nous avons à plusieurs reprises confirmé qu'en Polésie, il y avait davantage d'anomalies génétiques dans les autres zones. Il s'agit donc d'informations à la fois cohérentes et récurrentes. S'agissant des radiations, nous avons été surpris, nous avons constaté que les radiations incorporées chez les femmes enceintes progressaient de manière assez constante, bien que la demi-vie physique du césium soit censée être en baisse. Eh bien, le montant incorporé dans l'organisme de ces femmes progresse et progresse considérablement. Donc, c'est une question à étudier, évidemment. Pour résumer, donc, en quelques mots, l'association de la radiation qui augmente au fil du temps et la présence d'anomalies cohérentes et récurrentes en Polésie, beaucoup plus qu'ailleurs en Europe, voilà deux phénomènes qui sont vraiment à prendre en compte et on a peine à croire que ces deux éléments ne seraient pas quand même le signe d'une relation existant entre ces deux phénomènes. Après, la confirmation qui dirait que la radiation est bien la cause va requérir bien sûr des études prospectives plus importantes, qui sont d'ailleurs prévues et en cours de planification.
Mais qu'est-ce qui pourrait expliquer l'augmentation de la présence, c'est du césium 137 qu'on trouve, j'imagine, et pourquoi est-ce qu'il y en a davantage, et pourquoi est-ce qu'il s'accumule dans l'organisme ?
Let me say that there is bioconcentration.
En fait, il y a une bioconcentration du césium parce que le pâturage reste le même, le bétail est le même, il mange donc son herbe dans le même pâturage et comme cette herbe contient davantage de césium parce que justement le bétail vit dans ce pâturage et va donc avoir un phénomène où le lait a une plus forte concentration qui va passer à l'alimentation. Pour autant, bien sûr, que l'alimentation provienne des sources locales, eh bien, il faut du temps, bien sûr, pour que se produise ce phénomène de bioconcentration. Voilà pourquoi, lorsqu'on a fait des études au début, dans les années 87-90, à ce moment-là, la bioconcentration n'avait pas eu le temps de se faire dans les zones étudiées, et qui, d'ailleurs, étaient des zones très éloignées de Tchernobyl, rappelons-le au passage. L'autre point, c'est qu'il peut y avoir une concentration également dans l'organisme. C'est quelque chose de plus controversé, mais ça va être facile à définir. On peut prendre la même femme pour qui on va mesurer les taux de césium incorporé. On va voir si ce taux progresse à mesure que cette femme vieillit. C'est une question, malheureusement, à laquelle je ne peux pas répondre parce que ça coûte très cher. Les données, on les a, mais nous n'avons pas pu les analyser jusqu'à présent.
En tout cas, Vladimir Vertalevski, vous pensez que le mode de vie, et en particulier l'alimentation de la population, joue un rôle considérable ?
Écoutez, pendant un moment, on a donné aux enfants en Polésie une alimentation qu'on peut qualifier de propre. Il y avait un repas par jour sans césium, garanti. Malheureusement, le gouvernement a arrêté tout cela, sur la demande d'ailleurs des experts internationaux, et c'est regrettable. Moi, je pense que donner de l'alimentation propre à cette population, c'est quelque chose de capital, parce que cela va réduire l'incorporation du césium de manière vraiment très importante, et on a des données qui étayent ce fait. Maintenant, ils n'ont pas le choix, ces gens-là, ils ne vont quand même pas rester à mourir de faim. Ils n'ont d'autre possibilité que de manger ce qu'ils produisent. Donc, on s'en remet à la conscience de cette Europe qui dit qu'elle est un ensemble de sociétés civilisées. C'est cette Europe qui doit comprendre que Tchernobyl, ce n'est pas simplement le problème de la Polésie, c'est le problème également de la Norvège, c'est un problème en Suède, en Finlande, en Angleterre, en Écosse, en Irlande. Et je pense que si tout le monde n'aide pas tout le monde, eh bien, ça va être tout à fait injuste et inadapté de s'attendre à ce que l'Ukraine fournisse des données au reste de l'Europe, pendant que dans le même temps, l'Europe ne donne rien de son côté pour minimiser les effets de Tchernobyl sur les enfants. Les enfants, ils n'appartiennent pas à tel ou tel pays, ils appartiennent à l'Europe, et je pense que l'avenir de l'Europe, c'est ses enfants. Il est fondamental que nous adoptions une attitude qui reflète cette idée. Or, ce n'est pas le cas. Donc, malheureusement, je suis au regret de dire que, à mon avis, l'Europe occidentale n'a pas fait son travail.
Voilà, cette émission est maintenant terminée. Vous pourrez la télécharger ou la réécouter sur notre site franceculture.fr. Vous y retrouverez des liens vers Independent Who et notre revue de web hebdomadaire. Notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse, Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation, documentation Laurence Chenepin, Anne Gouzon, traduction Hélène Joguet-Lecointre, mixage Bernard Laniel, réalisation Jean-Christophe Francis. Bonne semaine à tous.